Bonjour, ici Philippe Corbet, RTL avec vous. 15e épisode de ce nouveau podcast de la rédaction de RTL, mobilisé comme jamais pour vous raconter et vous aider à comprendre cette crise si étrange, une crise sanitaire évidemment, mais aussi économique, sociale, politique, morale dans laquelle nous sommes. Et vraiment, nous sommes tous ensemble dans cette même histoire si curieuse. Plus que jamais, RTL est avec vous. 16e jour de confinement, en ce mercredi 1er avril, et personne n'a vraiment le cœur à faire des blagues aujourd'hui.
Très tôt, j'ai compris, ou en tout cas j'ai essayé de savoir ce que je ne voulais pas, à défaut de savoir ce que je voulais. Mmh. Je crois que c'était une règle d'or chez moi.
C'était un seigneur du football et un seigneur de Marseille. Pape Diouf a été emporté par ce maudit virus.
Et surtout le fait de respecter, d'abord d'avoir des convictions, ce qui me paraît essentiel. Les convictions vous permettent toujours d'aller le plus loin possible dans ce que vous souhaitez faire, et des principes. Mm-hmm. Mais par principe, j'entends cette notion qui a une contrepartie nécessairement. Parce que quand un principe n'a pas de contrepartie, ça reste un préjugé. Et j'ai fonctionné un peu à sa conviction d'un côté et principe de l'autre.
C'était une belle leçon de vie que nous offrait Pape Diouf il y a quelques années sur RTL, des convictions et des principes. Malheureusement, je crois qu'il va falloir qu'on s'y habitue à ça, à ce qu'on égrène des noms de personnalités tous les jours. Pape Diouf aujourd'hui, Patrick Devedjian, Manu Dibango. Je pourrais aussi citer le journaliste Henri Tinck, spécialiste des questions religieuses au Monde et à La Croix pendant longtemps. Et à côté de ces noms-là, combien de Gilbert, de Nicole, de Mohamed, de Louise? Combien de malades amenés précipitamment à l'hôpital et qui comprennent sur un brancard qu'ils ne reverront peut-être plus jamais ceux qu'ils aiment. Combien de familles qui souffrent d'avoir perdu si vite un des leurs, et toutes celles qui s'accrochent à l'espoir qu'un père, qu'un fils, qu'une sœur reprendra le dessus sur le virus. Combien de soignants qui risquent leur vie pour sauver les nôtres. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un sujet qu'ont évoqué tant de soignants ces derniers jours sur l'antenne de RTL, et vous en avez déjà entendu dans ce podcast RTL avec vous. Comment une grande nation, peut-elle se dire en guerre et laisser les soldats aller se battre sans armes? C'est l'analogie que nous donnait l'autre jour une infirmière dans un précédent épisode de RTL avec vous, et je crois qu'elle a raison, et ça résonne avec ce que nous a dit aussi Frédéric, qui, elle, est infirmière dans un établissement pour personnes âgées en Lorraine. Elle a appelé le 3210 pour parler à Julien Cellier et Marina Giraudeau.
Nous sommes actuellement dans une situation un petit peu difficile, puisque nous avons les masques au compte-gouttes. Nos masques à nous, qui sont des masques chirurgicaux, doivent être portés 3-4 heures maximum, échangés en cas de prise en charge de personnes en isolement, ce qui est le cas actuellement. Mmh. Et nous avons donc un masque par jour.
Donc
par
vous ne
personne.
Pouvez pas changer de masque quand vous changez de chambre,
du tout,
évidemment.
Du tout. Nous avons été préservés jusqu'à présent, mais depuis hier, nous avons des personnes qui présentent des signes de fièvre. Voilà, et c'est un petit peu en cascade. Hein.
Donc, vous avez les premiers cas, vous le sentez.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et voilà, donc avec les heures... On ne compte pas, les pauses non prises, voilà, on a beaucoup, je dirais que ce qui, excusez-moi, je suis un petit peu...
On vous entend, on l'entend, votre émotion, Frédéric.
On se sent un petit peu abandonné, voilà. Voilà, et donc, nous sommes là avec les collègues, excusez-moi, il y a beaucoup d'absentéisme au sein du personnel, et donc il faut faire face, il faut... rassurée, moi je suis infirmière depuis plus de 30 ans, donc je suis quelqu'un d'assez carré, mais c'est des situations auxquelles nous n'avons jamais dû faire face. Et nous devons aussi préserver nos personnels beaucoup plus jeunes, qui elles sont beaucoup plus désemparées. Nous devons absolument être présents pour ces personnes qui comptent sur nous, c'est leur lieu de vie. Voilà, nous sommes là pour eux et nous demandons simplement, pas des primes, nous demandons les moyens, des gants, des masques, des surblouses pour nous occuper d'eux.
Merci, voilà. Merci Frédéric pour votre témoignage ce matin.
Et je tenais à vous remercier tous et toutes sur RTL. Vous m'accompagnez le matin quand je pars sur Nancy Et voilà, c'est tout au long les informations qui sont claires, qui sont précises, et des bouffées d'oxygène avec tous ces témoignages de toutes les personnes et pour toutes les professions. Et nous aussi, on tient à remercier toutes les professions qui nous aident à, voilà, à pouvoir faire nos courses au quotidien.
C'est
et
à
voilà,
nous de vous dire merci, Frédéric.
Mais
merci pour ce que
voilà,
vous faites pour nos anciens. Bon courage à vous. On vous souhaite beaucoup de courage.
C'était dans une édition spéciale de RTL Petit Matin avec Julien Cellier et Marina Giraudeau. Et on comprend Frédéric. Elle a peur pour elle a peur pour les patients âgés qu'elle craint de contaminer. On pense aussi à tous ces soignants qui ensuite rentrent chez eux après de longues journées, qui rentrent chez eux le soir et hésitent à prendre leurs enfants dans les bras car ils ont peur de les contaminer avant de s'être douchés, de s'être soigneusement lavés parce qu'en fait, pendant la journée de travail, ils n'avaient peut-être pas les blouses, les gants, les masques suffisants pour être en sécurité. Et malheureusement, c'est comme ça partout en France en ce moment. En Normandie, Marie Mollet a recueilli des témoignages d'infirmières très ingénieuses qui récupèrent vraiment, comme elles peuvent, le matériel que nous n'avons pas été capables de leur fournir.
Certaines infirmières connaissent des carrossiers, elles ont récupéré des combinaisons de peintres. On a une collègue qui a commandé des tabliers, en fait c'est des tabliers de cuisine. On a aussi des couturières qui se sont mis à fabriquer des masques en tissu aussi. On nous dit que c'est pas optimum, mais on se dit que quand on n'aura plus rien, on pourra toujours se servir de ça.
C'est le système D partout. Alors il y a une centrale nucléaire qui a fourni des combinaisons à des infirmières pour qu'elles puissent effectuer les tests. C'est assez hallucinant, quoi.
On devrait avoir honte. Heureusement qu'il y a quelques groupes français qui se mobilisent pour produire au plus vite des masques de substitution, comme nous l'a raconté Armelle Lévy.
Eh bien, ces 45 entreprises reconverties en fabricants de masques, elles sont aussi bien de grands groupes comme Lacoste que de petites fabriques de t-shirts et marinières, en passant par des entreprises d'insertion professionnelle comme l'ADAPI à Vesoul. Toutes ont obtenu la validation de la Direction Générale de l'Armement pour produire désormais leurs propres masques alternatifs qui ne sont ni FFP2 ni chirurgicaux. Ils ne sont pas distribués au personnel de santé ni aux particuliers, ce sont des masques filtrants de catégorie 1 et 2 en tissu. Ils sont conçus pour protéger tous les salariés, plombiers, auxiliaires de vie, policiers, caissières, en contact avec le public. Certains sont lavables et donc réutilisables entre 5 à 10 fois, à condition de les laver à 60 degrés, de les sécher mécaniquement au sèche-linge et de les repasser de l'autre côté du filtre à 130 degrés. Les prix de ces masques sont libres, ils ne sont pas encadrés, mais ils coûtent entre 5 et 8 euros. Ils seront disponibles sur une plateforme d'achat stopcovid19.fr réservée aux professionnels pour équiper leurs salariés.
Oui, car visiblement, en écoutant quelques extraits du reportage de Julien Fautra qui va suivre, visiblement, il y a des Français qui sont censés rester confinés chez eux. Il y a des Français qui ont moins de mal que les soignants à trouver des masques. Comment c'est possible, Julien Fautra?
Bien d'abord et surtout, la débrouille. Une tante médecin, un copain pharmacien, chacun son petit réseau.
Moi, c'est un cadeau qu'on m'a fait parce que je connais. Donc, on m'a donné un masque ou deux, voilà.
Normalement, j'en avais, c'était mon ex-ami, en fait, qui les a ramenés du Pays-Bas. Oui, parce que c'est très difficile à trouver.
Il n'y en a plus en pharmacie, alors moi, c'est une amie qui me l'a donné.
Derniers jours, au moins 120 000 masques, possiblement destinés au marché noir, ont été saisis par les forces de l'ordre et vont être restitués aux agences régionales de santé. Alors, il faut compter sur un miracle. Ressurgit par hasard un souvenir d'Asie qui prenait la poussière au fond d'un
vrai
placard.
On a fait un voyage il y a un an au Japon et on a ramené quelques masques.
J'étais en Chine pendant le confinement là-bas aussi.
Ou alors il faut avoir ce petit talent d'anticipation.
Mon mari les a eus. Et il les a achetés en pharmacie, je sais pas, il y a 2 semaines déjà.
Oui, mais je l'ai acheté il y a 15 jours en pharmacie.
Un talent qui coûte cher.
9 euros. Le masque, j'en ai acheté 2.
Mais qui finalement rassure, puisque c'est un constat empirique, le masque a un effet
psychologique.
Psychologique. Et réconfortant.
On voit beaucoup courir les masques, moi j'en ai pas. Ça me fait peur.
Certains ont choisi l'option masque coloré, petite coquetterie prévue en réalité pour les cyclistes, achetée sur internet mais aujourd'hui pas livrée en moins d'un mois.
Et cette question des masques, elle ne concerne pas que les soignants, elle concerne tous les salariés qui doivent travailler dans des secteurs essentiels. Et je pense d'abord aux employés de caisse, elles ont été nombreuses à appeler RTL ces derniers jours pour se plaindre d'être mis en danger. C'était aussi l'objet d'une question d'une auditrice qui, qu'elle vit dans RTL Matin, soumise à Martial You, le chef du service économique et social de RTL.
Je travaille dans un grand magasin, nous dit Zora. Plusieurs de mes collègues ont le Covid-19. Est-ce que je peux invoquer le droit de retrait pour ne pas venir travailler sans risque de représailles de la part de mon patron?
Le droit de retrait, il est très précis. Le salarié, sans remplir d'ailleurs aucun document, peut refuser de se rendre à son poste s'il estime qu'il court un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Vous ne devez pas non plus d'ailleurs mettre, et c'est important, en danger directement un autre collègue en n'occupant pas vos fonctions. L'employeur, quant à lui, il est tenu d'assurer des conditions de travail optimales à ses salariés. Donc, Zora, si vous êtes en contact avec la clientèle, que vous n'avez pas de masque changé plusieurs fois par jour, ou pas de gants, ou pas de charlotte, vous pouvez refuser d'occuper votre poste. Mais attention, oui, vous êtes toujours à la disposition de votre employeur. Donc, vous ne pouvez pas décider de rester chez vous sans son accord. Le patron du magasin peut très bien décider de vous affecter à des tâches de bureau loin des clients. Et puis, je rappelle aussi, parce qu'on en a parlé il y a quelques jours, qu'un patron ne peut en aucun cas vous demander de signer un papier où vous accepteriez de ne pas l'attaquer en justice si vous tombiez malade. Ça, c'est totalement illégal et abusif.
Et comme Martial Liu, il y a toute une brigade de journalistes de RTL qui est mobilisée toute la journée, du début de nos éditions spéciales à 4h30 jusqu'à la soirée. On essaye de répondre autant que possible aux questions que vous vous posez sur le virus et sa propagation, mais aussi sur les conséquences de cette crise. Il y a des conséquences, enfin, j'ai pas besoin de vous les énumérer, mais des conséquences économiques, sociales, majeures, évidemment. Ça peut être des questions sur les règles du confinement, des questions sur l'école à la maison, voilà, et beaucoup d'autres choses. Vous pouvez continuer à nous poser vos questions sur RTL.fr, sur la page Facebook RTL, au 3210. Et puis, si vous remontez les précédents épisodes de ce podcast balado RTL avec vous, vous retrouverez un certain nombre de réponses à des questions pratiques. Donc mettez, si vous le souhaitez ou si ça vous intéresse, le lien de ce podcast RTL avec vous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Ça pourra peut-être être utile à d'autres personnes. Vous pouvez aussi continuer à appeler le 3210 comme vous en avez l'habitude pour apporter votre témoignage sur l'actualité. Et c'est ce qu'a fait Béatrice qui a appelé RTL depuis la Drôme pour parler avec Pascal Pro. Dans Les auditeurs ont la parole à 13h. Et il était particulièrement intéressant ce témoignage parce que Béatrice est sage-femme. Et en ce moment, on pense à toutes ces futures mamans qui s'inquiètent d'accoucher en ces temps de coronavirus, souvent parce qu'elles ont peur d'être seules.
Alors, moi, je suis sage-femme depuis 37 ans. Pour l'instant, il n'y a que certains hôpitaux qui ont des femmes qui sont testées et qui sont Covid+. Donc, ce qui oblige aussi, comme dans tous les autres services, d'avoir défini des chambres, entre guillemets, qui seront pour ces patientes contaminées et aussi des salles d'accouchement pour ces patientes contaminées. Ce qui veut dire que vous avez donc du personnel qui est au front, vraiment au front, donc au contact de patientes malades. En plus de ça, la patiente, on va dire, au niveau émotionnel, pendant sa grossesse, elle est beaucoup plus fragile que la femme qui n'est pas enceinte.
Oui, et puis dans cette période, il y a aussi une angoisse, une inquiétude. Comment je vais accoucher? Est-ce que ça va bien se passer?
Voilà.
Mais par exemple, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que dans la salle de travail, le mari peut être présent, quoi, ou le compagnon peut être présent?
Alors, écoutez, ça dépend des structures. Pour l'instant, chez nous, donc à Montélimar, le papa peut encore assister à la naissance. Alors, je dis le papa, mais en même temps, je devrais dire l'autre parent.
Donc, le père peut être là.
Les auditeurs ont la parole, c'est tous les jours à 13h après le journal de RTL Midi présenté par Christelle Robière. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de RTL avec vous. Je sais que les auditeurs des auditeurs réguliers de ce podcast m'ont dit qu'ils aimaient bien que ça se termine par une chanson, parce que c'est vrai que les chansons sont particulièrement réconfortantes en ce moment. En voici donc une, dont Sylvain Bellery nous a passé un extrait dans RTL Matin. C'est Jane Birkin qui l'a enregistré, diffusé sur YouTube, pour donner un peu de courage aux soignants, et au fond, à nous tous. On le prend volontiers. Un peu d'amour, le temps d'une chanson.
J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise. En dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise. en dansant la javanaise. Nous avions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue, amour. Mais c'est vous qui m'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous avions le temps d'une chanson. Merci à tous les aides-soignantes, à les infirmières, les docteurs, les gens qui font attention à nous, les vieux qui restent chez eux. Merci pour les livreurs, pour toutes les personnes qui se sont dévouées pour faire que notre isolement soit moins dur et quand on est malade, qui nous soignent avec tant de tendresse. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Inoubliable, vous.
À demain, au Lécoeur.